encouragé cette semaine par nos deux réunions de prière. Et je crois que c'est vraiment nécessaire pour notre vie d'assemblée en ce moment. Et j'ai vraiment été encouragé par mardi et vendredi soir. Parce que depuis septembre, c'est pas que je suis inquiet en tant que pasteur, et puis je peux peut-être m'inclure dans ça, mais je ressens, ou je constate peut-être que nos petites vies quotidiennes, avec toutes les luttes et préoccupations qu'on a, hein, quelles qu'elles soient, hein, commencent à nous faire oublier notre vie d'église. Et il y avait une très bonne dynamique depuis janvier, j'avais fait ce bilan avec même les frères du conseil, hein, une bonne dynamique de janvier jusqu'à juin, et puis juillet, août, et là depuis septembre, vraiment je sens une dynamique moins, on est moins impliqués les uns avec les autres, moins impliqués dans notre vie d'église, et c'est juste d'être vigilant. Vigilant à ça et peut-être relancer la machine, je dirais, faire des efforts de se rencontrer en dehors de la vie d'église, je dirais, du culte. Je pense que c'est nécessaire parce que l'ennemi veut nous faire perdre de vue l'essentiel. Et ne perdons pas de vue l'essentiel. Parce que des préoccupations extérieures, vous allez en avoir toute votre vie. Et ça risque de prendre le dessus. Donc voilà, c'est juste un petit appel à la vigilance et à faire attention. On va continuer notre série dans Colossiens, qui peut peut-être nous aider par rapport à cela. Colossiens chapitre 2, hein, je suis le texte biblique, hein, voilà, c'est comme ça. Colossiens 2, je vais vous lire les versets 1 à 7. Je veux en effet que vous sachiez... Je vais prendre verset 29, pardon, du chapitre 1er, pour se remettre dans le contexte. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions que vous avez, qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Paul est en train de mener un combat. Un combat dans la foi. Un combat par la prière avec les genoux pliés dans sa prison. Quand il écrit, il est emprisonné, n'oublions pas. Paul est en train de dire, je combats pour vous. Un grand combat. Un combat intense pour vous, mes frères et sœurs. Ce combat, il le fait par Christ, mais pour l'Église. Paul ne perd pas son temps à combattre des combats inutiles qui ne restaurent pas l'âme. Paul combat un vrai combat, celui de la foi. Paul a consacré toute sa vie au service de l'Église, sans attendre quoi que ce soit en retour, parce qu'il aimait Christ. Vous savez, il a écrit à plusieurs églises, il a visité plusieurs églises, et je peux vous dire qu'il y a des églises, il devait en avoir marre. Corinthe, ça n'a pas dû être facile à Corinthe. Mais il persévérait, et il donnait tout. Signe d'un vrai serviteur de Dieu. Même les églises qu'il n'a jamais visitées, il s'y intéresse et les encourage, ce qui est le cas de Colosse. Il s'intéresse à eux. Parce que c'est un combat spirituel dans la prière pour que ces assemblées tiennent bon. Et c'est pour ça que j'étais encouragé cette semaine par cette présence dans la prière de mardi et vendredi. Parce que c'est à travers la prière que notre assemblée va pouvoir grandir. C'est à travers la prière que je vais pouvoir progresser, grandir et connaître mieux le Seigneur. Et Paul parle de ce combat, ce grand combat qu'il est en train de mener, c'est parce qu'il y a ceux-là qui sont en train de venir embêter l'Église. Il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui. Afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et on va voir les objectifs que Paul fixe à l'Église et à ma vie pour ne pas se laisser avoir par ces discours séduisants qui peuvent venir de l'extérieur par des nouvelles doctrines ou qui peuvent venir des fois par l'ennemi et rentrer dans notre cerveau et arriver avec ces discours séduisants. Paul a des objectifs pour ses églises afin que ces églises soient dynamiques et stables doctrinalement. Vous savez, une vie sans objectif, c'est une vie ennuyante, une vie morose. Et peut-être que notre église a peut-être piqué du nez là depuis septembre parce que peut-être on manque d'objectifs dans notre vie. Et le Seigneur fonctionne avec des objectifs. Une vie d'église sans objectif, tombe vite dans la routine et s'endort. Et ce matin, j'espère qu'on va pouvoir... Je ne pense pas qu'on verra le dernier, marcher avec Christ, parce que le texte biblique est tellement riche qu'on... Je pense que le dernier, on le verra peut-être la semaine prochaine. Mais j'espère qu'on va pouvoir voir déjà ces trois premiers objectifs. Un cœur rempli de consolation, être uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence. Alors, on reprend notre texte biblique. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin, voilà premier objectif, le but, premier but, afin que, qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Il y avait un régiment grec qui était complètement découragé et abattu. Des hommes au combat fatigués, ils n'en pouvaient plus. Et puis, ça arrive aux oreilles du général. Le général ne va pas se déplacer, mais il va envoyer un homme, un chef d'équipe, qui avait cette qualité de pouvoir remobiliser des hommes. Et puis, il envoie ce chef parler à ses hommes. Et les paroles de cet homme, envers ce régiment tout découragé, vont leur donner à nouveau du courage. Et puis, ils vont pouvoir être aptes au combat et en remporter des victoires. Lorsque Paul fixe comme objectif d'avoir un cœur rempli de consolation, cette idée d'être rempli de courage pour affronter n'importe quelle situation. Nous sommes peut-être de ces soldats grecs ce matin. Mais le Seigneur veut que nous ayons comme objectif un cœur rempli de consolation. Quand la Bible utilise le mot cœur, ce n'est pas le cœur tout physique, d'accord, hein, avec les pompes et que ça accélère avec le sang. C'est pas ça. L'idée du cœur, c'est l'être tout entier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on parle du mot cœur, c'est le mot entrailles, littéralement. C'est au plus profond de soi. Vous savez, quand il y a ces douleurs, ce stress, toutes ces choses, hop, c'est au fond de nous, ça. C'est les entrailles. Et le cœur, c'est ça, c'est toute ma vie, tout mon être. Lorsque la parole de Dieu dit « Dirige ton cœur dans la voie droite », c'est pas le cœur physique, hein. Bien sûr, c'est « Dirige toute ta vie dans la voie droite ». Pour ce qui est du mot consolation, ça vient de la même racine que le mot consolateur. Vous savez, on l'a vu ce matin avec Patrick, vous savez, dans Jean, quand le Seigneur dit « Vaut mieux que je parte », comme disait le Seigneur, et que le consolateur vienne. Le consolateur qui était, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Donc si on peut regarder, si on faisait un petit égal, un cœur rempli de consolation, ça pourrait être une vie remplie de l'Esprit. Une vie remplie de l'Esprit, un cœur rempli de consolation. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, comme cet homme l'a fait pour ce régiment. Un cœur rempli de consolation, est-ce le cas ce matin pour nos vies? De quoi est rempli mon cœur ce matin? Notre comportement montre bien de quoi nous sommes remplis, vous savez. Oh, peut-être que dimanche matin, oui, c'est sûr, on ne le verra pas. Mais la semaine, auprès de ta femme, de ton mari, de tes collègues. Quelles sont tes réactions? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà un objectif, remplir mon cœur et ma vie quotidienne d'encouragement, d'exhortation vis-à-vis des autres, au lieu de faire des reproches et des critiques. Vous savez ces phrases? Des fois, je l'ai dit aussi, je travaille vraiment, c'est vraiment un combat que j'essaye de faire avec mon épouse, de ces phrases qui disent « Tu fais toujours comme ça, tu fais jamais comme ça ». Vous connaissez ces phrases? Et on le dit entre couples, mais on peut se le dire aussi entre frères et sœurs, vous dire « Ah, celui-là, il fait toujours comme ça, il ne changera jamais ». Amis, ça, c'est pas un cœur rempli de consolation. Ça, c'est un cœur qui est rempli de colère, de frustration, car il n'est pas alimenté par la parole de Dieu. Ça, c'est juste un exemple de 3-4 phrases que je suis en train de vous dire. Mais il y en a tant d'autres. Bien souvent, ce cœur-là picore la parole de Dieu au lieu de la manger pleinement. Tu veux atteindre cet objectif, il faut prendre du temps à l'école de Dieu. Fortifier, consoler et encourager les croyants était une partie très importante du ministère de l'apôtre Paul. Et Dieu attend de moi et de toi la même chose dans ton foyer et dans ton assemblée. Avoir un cœur rempli de consolation. Avoir notre vie tout entière remplie de l'esprit pour encourager, consoler, comme cet homme l'a fait pour ce régiment. Voilà un premier objectif pour notre vie ce matin. Deuxième objectif, qu'ils soient unis dans l'amour. Alors on va prendre un Corinthiens 13, parce que je pense que moi-même, je n'arriverai même pas à le définir. Et je pense que seule la parole de Dieu peut parler de l'amour mieux que moi-même. Parce que ce n'est pas forcément toujours notre point fort. Et on va voir parce qu'on a une mauvaise définition souvent de l'amour. Unis dans l'amour. 1 Corinthiens 13, qu'on connaît par cœur, c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mes amis, vous pouvez parler toutes les langues que vous voulez. Vous pouvez avoir tous les dons que vous voulez. Vous pouvez être l'homme le plus social, le plus humanitaire de l'Église. Mais si tu n'as pas l'amour, mon ami, tout cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Beaucoup d'églises font plein de blabla pour plein de choses. Mais si l'amour n'est pas là, à quoi ça sert? Et j'espère que notre église est consciente que le blabla ne sert pas à grand chose. Vous savez, la difficulté avec cette notion de l'amour, c'est que nous n'avons pas tous la même définition. J'avais envie de faire ça, mais on n'a pas le temps. Mais de vous donner un papier à chacun, un crayon, et en moins d'une phrase, m'écrire votre définition de l'amour. Et je récupérerai tous ces papiers. Je suis sûr qu'on aurait presque 40 définitions différentes de l'amour. Parce que l'amour, la définition de l'amour pour nous, c'est par rapport à ma façon de voir, à moi, bien souvent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus des fois dans un couple ou dans une assemblée par rapport au mot amour. Et je réfléchissais à tout cela durant cette semaine quand je préparais ce message. Pourquoi certaines personnes, pas besoin de leur dire le mot « je t'aime » tous les quatre matins, mais par des actes, eux, ils se sentent aimés. Alors que d'autres, les actes, ça leur va pas. Il faut leur dire le mot « je t'aime ». Vous voyez, on fonctionne différemment avec cette notion du mot « amour ». Parce que la définition vraie de l'amour ne dépend pas de l'émotionnel et du sentiment. Contrairement à comment nous, on le cultive au quotidien. Mais regardez comment est la vraie définition de l'amour dans la suite du passage. Et la vraie définition, et la seule définition vraie de l'amour, elle va se trouver là. Et on va la lire ensemble. Bien souvent, oui, comme je vous dis, la définition de ce mot est selon nos attentes. Mais l'amour, verset 4, est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et mes amis, l'amour, ce n'est pas juste un et je sors. Le mot amour, la définition de l'amour, c'est tout ça. En un seul. Et voilà pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas dire réellement à l'heure actuelle que nous aimons pleinement. Parce que de toutes ces caractéristiques ici, il y a du boulot. Et chacun, moi, le premier inclus, c'est du boulot. Voilà qu'est-ce que le véritable amour. Voilà l'amour qui peut nous unir. Ce n'est pas un amour basé sur l'émotionnel ou le ressenti, ça va beaucoup plus loin que ça. Je comprends que s'embrasser, se faire la bise, c'est une chose. Je comprends que d'aller aider un frère, une sœur, c'est une chose dans la manière pratique. De s'inviter, c'est une chose. Mais mes amis, si ça déjà, c'est pas appliqué dans notre vie, le reste, ça reviendra à la même chose que parler toutes les langues ou de faire tous les dons de prophétie. Ça ne servira à rien. Et si vous étudiez bien le verset 4 à 7, vous pouvez remplacer le mot « amour » par « Christ ». C'est la même chose. Christ est patient. Christ est plein de bonté. Christ n'est point envieux. Christ. Cette unité dans l'amour est possible grâce, justement, à Christ. Cette unité dans l'amour au sein d'une assemblée est, je pense, un objectif primordial pour que l'Église grandisse. Cette unité, bien sûr, dans l'amour, demande des efforts. Ça ne se fait pas en claquant des doigts d'aimer son prochain. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible en parle. La Bible ne dit pas que lorsqu'on se convertit, aimer, c'est comme ça, c'est naturel. Non, ça va demander des efforts. La parole de Dieu en parle. Regardez Pierre et Paul. Deux hommes à fond pour le Seigneur. Ils n'aimaient pas le Seigneur, ces hommes-là ? Oh, plus que toi et moi, mon ami. Mais ces hommes-là ont eu un clash à un moment donné. Ils étaient différents sur des choses où ça n'allait pas. Mais ce n'est pas un amour émotionnel qui a fait que ça s'est réglé. C'est un amour biblique parce qu'ils ont appris à se pardonner, parce qu'ils ont appris à être patients, parce qu'ils ont appris à pouvoir travailler ensemble. C'est là que leur ministère a pu être magnifique par la suite. On est avec moi pour vous montrer que ça demande un effort, Éphésiens 4. Parce que l'ennemi rôde pour détruire cette unité dans l'amour. Il rôde, il a envie que ça se passe comme ça. Et des fois, il veut alimenter nos cœurs pour que ça se passe comme ça. Regardez Éphésiens 4, 3 avec moi, qui montre que ça demande un effort, cela. Et Paul est toujours en prison, même quand il écrit à Éphèse. Hein. Je vais prendre à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Éphésiens 4, verset 1er. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et on continue. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Ça demande un effort de conserver cette unité dans l'amour et dans la paix. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai envie de m'efforcer à ? Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que il y a les choses de la vie qui sont là. Mais voilà un objectif que je te lance et que je me lance et que je lance à l'église ce matin. Mes amis, efforçons-nous à nous unir dans l'amour et à mettre en pratique ce Corinthien que nous venons de lire. Parce que mes amis, ce Corinthien que nous venons de lire débloque beaucoup de choses. Débloque beaucoup de choses. On n'a pas lu le verset 8, mais il dit « Les langues passeront ». La connaissance passera, mais l'amour, elle, sera toujours là. Revenons dans Colossiens, et on va prendre verset 12. Côté pratique, cette unité dans l'amour. Alors, si tu te considères comme un enfant de Dieu ce matin, verset 12. On reviendra bien sûr dans ce passage, hein, parce que ça va être une suite de l'étude de Colossiens, mais verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des enfants de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Encore la notion de l'amour. « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Mes amis, il y a quelque chose qui est très fort dans ce passage et dans les passages que je vous ai lus tout à l'heure, il y a un mot qui est toujours en parallèle avec le mot amour. C'est le mot humilité. Le mot humilité. On ne peut pas aimer réellement quelqu'un sans s'humilier. Vous savez, l'humilité me permet de ne plus me considérer, pas de plus me considérer, mais de plus regarder à moi-même, mais de considérer l'autre. Et de voir l'autre comme Christ veut que je le voie. Et ça, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est pas toujours évident. Et ça demande des efforts, ça demande une vie constante avec Christ. Voilà. Et puis on arrive à notre troisième objectif. Un cœur rempli de consolation, uni dans l'amour. Et puis le texte biblique dans Colossiens nous dit, donc, rempli de consolation, qui soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Est-ce que chrétien veut dire qu'on ne réfléchit plus et qu'on vit tout dans le mysticisme? Et ça veut dire ça? Non, absolument pas. Dieu utilise souvent le mot intelligence dans la parole de Dieu et le mot connaissance. Être chrétien ne veut pas dire que nous ne réfléchissons plus ou que notre intelligence n'est plus nécessaire. Au contraire, Cette intelligence que Dieu nous donne permet d'appliquer les principes bibliques à la vie de tous les jours. Ça, c'est la vraie définition du mot intelligence. C'est cette compréhension du texte biblique, cette intelligence me permet de la vivre et de le mettre en pratique. Dans cette intelligence, tu ne peux pas jouir de toutes les bénédictions que Dieu t'accorde. Vous savez, c'est ça toujours le décalage des fois avec cette intelligence, c'est tu ne peux pas attendre avec espérance les bénédictions de Dieu si tu n'as pas la pleine assurance de vivre à ses côtés pour l'éternité. Tu sais ce que je suis en train de dire? L'intelligence spirituelle vraie de Dieu, ça veut dire je crois maintenant que quoi qu'il se passe, je suis avec Dieu pour l'éternité. Et si je crois ça de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, alors je vais pouvoir vivre pleinement ces bénédictions au quotidien. Parce que je sais où je vais. Mais si tu n'as pas cette assurance sûre d'aller auprès du Seigneur, comment veux-tu vivre ces bénédictions? Ce n'est pas possible. Ça relève du domaine de l'intelligence spirituelle, ces choses-là. C'est ça notre difficulté, ce n'est pas un manque de connaissance, mais l'absence d'application des vérités que toi et moi, on connaît. Autre exemple, en connaissance et en intelligence. Allez, faites des nations, de toutes les nations, mes disciples. Et puis plus loin, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est là, on l'a, on le connaît ça, c'est notre intelligence. Mais maintenant, pourquoi nous avons peur d'aller vers les autres pour annoncer l'évangile? Parce que là, mes amis, voilà, c'est comme l'enfant qui tombe. C'est que notre intelligence tombe à un moment donné, elle n'est plus là. Elle est oubliée. On réfléchit comme nous on a envie de penser. Et le Seigneur nous demande d'être rempli de cette intelligence. Un autre exemple. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est la connaissance. Où ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça c'est la connaissance. Maintenant, pourquoi on doute du salut de Dieu? Pourquoi on doute du salut de Dieu? S'il le dit. Parce que là encore, notre intelligence n'est pas remplie par Christ. Je peux aller encore plus loin dans ces raisonnements. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais quand la parole dit, ne vous inquiétez de rien. Connaissance. Vous allez me dire, mais maintenant, pourquoi on s'inquiète? Certains me diront, oui, mais c'est normal, c'est humain. Ça relève de ça, être enrichi d'une pleine intelligence. C'est ça l'intelligence, c'est de comprendre les choses bibliques et de les mettre en pratique. L'intelligence spirituelle n'est pas liée avec l'âge, mais dans cette communion intime et quotidienne avec le Seigneur. Mes amis, si ma vie est enrichie d'une pleine intelligence, alors ce mystère dont nous parlions la semaine dernière et qui est présenté là ici n'est plus caché pour moi. Mais il y a quelque chose de vrai, d'authentique. Christ crucifié et ressuscité n'est pas une folie pour moi, mais un sujet de joie. Un sujet que je veux partager à mes frères et sœurs. Et vous savez quoi? Lorsqu'on est enrichi d'une pleine intelligence, alors Christ me suffit. Christ me suffit. Je n'ai pas besoin d'écrire d'une secte, je n'ai pas besoin d'une philosophie, je n'ai pas besoin d'avoir une psychologie qui épaule la parole de Dieu ou qui épaule Christ. J'en ai pas besoin de ça. Et j'en veux pas. Christ me suffit. Christ est la source de toute intelligence, de toute connaissance et de toute sagesse. Comme on revenait ce matin avec les textes bibliques dans Jean, est-ce qu'on croit à cela? Ou est-ce qu'on veut s'appuyer sur autre chose? Et c'est pas être décalé avec la société, hein. On peut croire que Christ a toute intelligence, toute sagesse et toute connaissance et vivre par cela en étant quelqu'un de sociable avec les gens de l'extérieur. C'est ça qui va les intéresser. Ils vont dire, mais celui-là, il est bizarre. Celui-là, il a quelque chose qui est différent que je n'ai pas. Et c'est ça qui doit les interpeller. Et c'est à cette source que je veux puiser. Dès que nous mettons de côté cette source, nous commençons à douter sur la suffisance de l'œuvre de Christ. Mais tu ne le diras jamais ça. Si je vous interrogeais, pareil. Il n'y en a aucun de vous qui me dira, moi je doute que Christ me suffit. Hein? Mais en pratique, c'est ce qui se passe. C'est à ce moment-là que tu fais ce que tu veux. Dès que Christ ne te suffit plus, dès que tu vois un comportement de ta vie où tu fais ce que tu veux, c'est que Christ ne te suffit plus. Et là, mes amis, notre intelligence n'est plus remplie par Christ, mais par moi. Et voilà comment le péché arrive. Le péché arrive à ce moment-là. arrive à ce moment-là, et puis il se révèle par notre comportement en parole, en attitude ou en pensée. C'est très profond cette notion d'être enrichi d'une pleine intelligence. Parce que dès que Christ ne me suffit plus en moi, alors ça commence à arriver. Et on va prendre autre chose. Et voilà comment le péché souvent se développe dans notre vie. Donc voilà notre objectif, que ma vie soit remplie, soit enrichie en tout cas d'une pleine intelligence en Christ. Si Paul nous enseigne ses objectifs, c'est parce qu'il sait très bien que certains rôdent pour séduire les plus fragiles spirituellement. Mais j'ai mis plus fragile, mais je pense que je peux me reprendre pour séduire le chrétien, tout court. Ces faux enseignements qui courent les rues, qui nous déstabilisent, ou que l'ennemi court ses rues pour venir rentrer dans nos maisons et nous déstabiliser, parce que des fois nous n'avons plus d'objectifs. Alors voilà, ce matin, je vous présente trois objectifs de la parole de Dieu, qui sont clairs, nets. Je ne dis pas qu'ils sont faciles à vivre, mais il faut tendre vers ça. Un cœur rempli de consolation, uni dans l'amour, enrichi d'une pleine intelligence. Et c'est en fixant des objectifs pour tenir ferme dans notre foi, sans céder au doute. Tu peux mettre le schéma suivant, clic, oui encore. Voilà. Combattre les faux enseignements de la rue. Et j'essaie de faire un petit quelque chose, peut-être pour que ce soit un mémotechnique pour vous. Le R de rempli de la consolation, ce qu'on vient de voir ce matin. On continue. Le U de uni dans l'amour. Et enfin le E, bien sûr, d'enrichi. Être enrichi d'une pleine intelligence. Voilà. Maintenant, essayons de vivre cela pleinement. Et on verra marcher en Christ la semaine prochaine, toujours dans ses objectifs. On va prier. Père, merci encore de ta parole. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à l'apôtre Paul en écrivant ses lettres à cette église qu'il aimait. Tu vois que Paul voyait qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient l'art de parler et de séduire les chrétiens. Tu vois qu'ils étaient là pour décourager, déstabiliser les frères et sœurs dans l'église par des faux raisonnements, des discours séducteurs. Oh Père, fasse que l'ennemi ne vienne pas nous séduire par ces faux raisonnements, que nous puissions comprendre pleinement que tu nous suffis. Oh Seigneur, je sais que des fois, c'est pas toujours facile. Mais nous voulons combattre cela. Nous voulons combattre ce grand combat que l'apôtre Paul parle. Et Seigneur, un combat, il faut être vigilant au quotidien. Vraiment que nos cœurs ce matin soient attendris, que nos cœurs soient ouverts et que ton esprit puisse agir pleinement dans tout notre être. Oh Seigneur, vraiment agis. Que cet enseignement de la parole puisse nous faire nous épanouir en toi. Je prie vraiment que ça soit quelque chose de vécu dans notre vie d'église. Vraiment agis, Seigneur. Je te le demande en Jésus-Christ. Amen.